Salut à toi camarade, c'est Mission Censurée qui redémarre pour une nouvelle session ce soir avec le Dave derrière le micro à la jactance et le Lucas derrière les potards à la technique. Comme d'hab, nous sommes tous les deux à l'antenne d'RCN Radio Caraïbes Nancy sur le 90.7 en votre compagnie, chers auditeurs, chères auditeuses. Nous sommes en direct en ce 1035e jour d'occupation sarkozyenne. Et ça démarre fort!
On était une bande d'adolescents à déambuler dans la rue. On marche, on dansait, puis on cueille. On chante des chansons des bébés. Les flics n'aiment pas qu'on soit ensemble. Les beaux font peur, les grands-mères tremblent. Les jeunes, c'est l'insécurité. Il faudrait tous les enfermer. On a mis nos masques de clown pour effrayer les policiers. Y'avait Ed Bloch et Stonja, Mastonja pour Max, soit les mois. Y'avait aussi quelques copines, tous les affreux et leurs petites jeans. On ne vit pas comme les autres, on nous tire dessus dans la...
Ça commence fort pour ce soir dans Émission Censurée. On vient de s'entendre, les amis, Conte cruel de la jeunesse, c'est le titre du morceau. Évidemment par les Berruriers Noirs, si vous l'avez pas reconnu. Eh ben tant pis pour vous, ça vient de l'album Concerto pour détraquer, ça date de 85. Tout ça pour vous dire, chers auditeurs, chères auditeuses, bienvenue et merci d'être à l'écoute d'Émission Censurée pour ce soir encore, fidèles au poste de votre côté comme du nôtre, hein, de votre petit poste de radio, tout ça, à nos petits micros. Eh bien, figurez-vous que ce soir, c'est une première. J'ai décidé d'intituler l'émission qui va se dérouler dans nos oreilles et bobites. Je suis pas sûr du T à la fin du bi. L'émission s'appelle donc Nos années folles. Alors, ça me paraissait quand même vachement bien de commencer par un petit morceau des Berrues, Conte cruel de la jeunesse en plus. Ça date de 85, donc ça, je vous l'ai dit. Tout ça pour introduire ce merveilleux thème, Nos années folles. Et on va commencer Nos années folles en 85-86. 86 jusqu'à 88. Alors, je me suis beaucoup documenté, il y a déjà pas mal de choses que je savais, tout ça, mais je crois que c'est aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, parce que depuis qu'Émission Censurée existe, à savoir depuis un an et demi maintenant, c'est notre 63e émission, il était quand même temps que je sache vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais enfin, à la fin, ce mouvement alternatif. Alors, voici des semblants de réponses. Et pour commencer, on va commencer en 86. Tchernobyl vient de péter en 84. Le mur de Berlin n'est pas encore tombé. Ça, c'est en 89. On est donc en pleine guerre froide. Guerre froide qui touche à sa fin, mais ça, personne ne le sait encore. Ça viendra donc 3 ans après. Donc c'est la fin du premier septennat de Mitterrand, on est en pleine cohabitation. Chirac est enfin Premier ministre, et Pasqua, son sinistre de l'intérieur, vous savez, avec son bulldog Robert Pendreau, je crois, qui vient de décéder. Paix à son âme, bien fait. Donc, pendant que le gouvernement prétend terroriser les terroristes, qui posent des bombes à Paris, Mitterrand a lâchement lâché les immigrés. On en reviendra, ça c'était en 83, la marche des beurs, on reviendra là-dessus sur une autre émission. Ce qui n'empêche que le Front National commence à faire de gros scores dans les urnes et ça passe mal, surtout pour Malik Houssekine, mort à 22 ans le 6 décembre 86, pendant une manif contre le projet de Vaquet, qui voulait déjà, à l'époque, privatiser les universités et les mettre en concurrence. Déjà. Bref, la jeunesse ne l'entend pas de cette oreille et c'est là que le mouvement alternatif commence à exploser et à ruer dans les brancards. Alors pour bien ruer dans les brancards, je vous propose ce fabuleux et mythique morceau des Parabellum qui s'appelle Ilo Amsterdam. Yo ! Ça commence en douceur, mais ça va pas rester doux longtemps. Attention ! Les bras couverts de croûte dans le port d'Amsterdam, y'a des junkies qui coulent pour des trafics pas cool, pour des histoires de clap, des grosses pompes en béton, des entrées vers le fond, pertinemment infâme dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Et voilà, c'était les Parabellum avec qui nous chantaient donc Hilo Amsterdam, issu de d'un de leurs maxi 45 tours qui s'appelait Gratuit, deux morceaux en moins, avec une jolie pochette de Pyrrhus d'ailleurs, qui était un super dessinateur de BD à cette époque-là. Le morceau date de 86, comme quoi on est pile poil dans la bonne année, et c'était sorti chez Gouniaf Mouvement et Bandage Productions. Alors, je vous ai fait déjà un petit résumé historique hein, pour qu'on se remette un petit peu dans le contexte sociopolitique en France, du moins de l'époque. Mais j'ai oublié de vous dire, alors les Bérus, on s'est écouté un extrait donc de leur troisième disque, mais c'est vraiment le premier qui cartonne. Les deux premiers étant sortis en 83, ils s'appellent Nada et Macadam Massacre. Donc les Bérus, ça existe depuis 83, ils sont de Paname, et dans les quelques années qui viennent, même en 86, on peut déjà dire qu'ils sont considérés comme le porte-drapeau du mouvement alterno, qui commence donc un petit peu à émerger. Alors Parabellum, ils ont sorti beaucoup de 45 tours et de maxi 45 tours, et c'est vrai qu'en 86, le compact disque n'existe pas encore. Et on peut retrouver toute la compilation de ces 45 tours et de ces maxi au début de la carrière de Parabellum dans un tout premier album CD qui compile le tout donc et qui s'appelle Danse micro-sillon à faisceau de lumière cohérente, sorti en 89, qui est maintenant carrément introuvable. Les Parabellum, ça fait 26 piges qu'ils existent. Ils sont formés en 84 jusqu'en 91. Et ensuite, ils se sont séparés pour se reformer en 97 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont de Paname aussi, mais ça, si vous êtes des férus auditeurs et auditeuses d'émissions censurées, en ce qui concerne Parabellum et les Bérus, vous le savez déjà certainement. On va continuer un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le mouvement alternatif ? Donc, de plus en plus de groupes rentre dans la brèche ouverte quelques années auparavant par quelques exemples parmi d'autres. La liste n'est pas exhaustive, vous m'excuserez. Il y a Taxi Girl, Star Shooter, La Souris Déglinguée, Oberkampf, Metal Urbain, Les Portemanteaux, dans lesquels ont commencé Parabellum, Les Varum Joe, on peut même citer Odeur, et super grand public aussi, on peut carrément citer Trust et Téléphone, bien sûr. Alors, ces groupes-là, on y reviendra de toute façon un de ces quatre. Il fallait bien commencer quelque part et j'avoue que la période qui précède un petit peu les années 85-86, moi j'étais un petit peu jeune, j'ai commencé vraiment à écouter, à découvrir le mouvement et le rock alternatif à partir de 86-87. Donc ce qui s'est passé un petit peu avant, on y reviendra de toute façon. Là, comme je vous disais, je manque un petit peu de matière, mais il fallait bien commencer quelque part, donc c'est pas grave, ça nous empêche pas de nous mettre un bon petit morceau d'OTH dans les oreilles, et ça démarre comme ça. Vas-y, monte la sauce, Lucas. Oh 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 oh. Ils ont l'air de bien s'amuser. OTH. C'était donc OTH qui nous chantait Industrie Business Musique IBM pour les intimes, issu de leur album Sur des chardons ardents sorti en 86 chez le studio de la Loge, plus Art Traffic et distribué par New Rose. Alors OTH, c'est leur troisième album depuis 82. Ils sont formés en 82. Et ils ont arrêté en 92, 10 ans d'existence, sachant que leur premier album, c'est OTH, hein, donc du même nom, sorti en 82 et Réussite en 84. Tout ça pour vous montrer qu'il se passe des choses à Paris, mais ça ne bourre pas qu'à Paname, ça bourre à Montpellier aussi, puisque OTH vient de là-bas. Parce que le mouvement alternatif n'a pas vocation à devenir parigo-parisianiste, si vous me permettez l'expression, étant peut-être à prouver qu'on n'est pas obligé de monter à la capitale pour faire carrière, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Même si effectivement beaucoup de groupes naissent à Paname, ça n'en bouge pas moins en province. C'est même l'application directe du concept punk du do it yourself, à savoir démerde-toi par toi-même partout où tu te trouves. Et ça va avoir beaucoup d'importance pour la suite des événements quand, quelques années plus tard, la capitale ne pèsera pas plus lourd que la province. On va donc remonter un petit peu à Paris avec les WDC, à savoir les Washington Dead Cats, qui est aussi un groupe qui émerge à partir de cette année-là. C'est parti pour les Wash! Yeah! Tripping and a crawling, it's kind of close to you. It's a mama's move, offended and it's new. It's driving up to you, you have to resist. You don't know why, but you know she's not cute. She's the bad girl, girl, over here. Yop là, c'était donc les Washington Dead Cats qui nous chantaient Beetroot Girl, issu de leur tout premier album Go Vegetables Go. Allez les légumes, allez. Sorti en 86 chez Bandage Productions. Alors les Wash, c'est leur premier album. On peut dire que c'est même les précurseurs du gore and roll. Je vous ai passé déjà dans les émissions précédentes quelques morceaux bien énergiques de Banane Métallique, par exemple, qui font du gore and roll. Alors voilà, les Washington Dead Cats, à l'époque, faisaient du gore-billy. Les Wash, donc, ils se sont formés en 84. Jusqu'en 91, comme les Parabellum. Ils se sont séparés à cette époque-là aussi comme les Parabellum, et ils se sont reformés comme les Parabellum, mais un peu plus tard, en 2001, et ça tourne encore aujourd'hui. Les Wash viennent de Paname, donc ça je vous l'ai dit. Et on va donc continuer un petit peu. Alors j'ai pris des notes, hein, tout ça, j'ai des gros post-it. Alors, je retourne dans mes notes, donc... On aurait tendance à penser, les petits amis, que les groupes alternos sont avant tout revendicatifs et que c'est même leur principale raison d'être, comme on vient de l'entendre avec les Beru, les Paras et OTH. Certes, ça revendique, mais ça ludique aussi. Les Washington Dead Cats en sont un bon exemple. Sur scène, ils balancent des poireaux sur les musiciens, dans le public, tout ça. Avec les temps de crise qu'on connaît aujourd'hui, on pourrait plus se permettre de jouer avec la nourriture. Mais enfin, donc c'est ludique avec les Wash et c'est ludique avec, évidemment, les Ludwig von 88 aussi. Les Ludwig, C'est cependant pas que de la gaudriole, ça dénonce bien aussi, mais le but et le moyen qui prévalent, c'est de surtout pas se prendre au sérieux et de faire la bringue à donf. Le mouvement alternatif est donc aussi « festif » entre guillemets, dès son origine. Parce que comme le disaient les Bérus, la fête oui, mais la lutte aussi. Et pour vous le prouver, je vous envoie donc dans vos oreilles à vous un petit morceau des Ludwig qui s'appelle Fistfuck Playa Club. Ça commence comme une soirée mondaine.
S'il vous plaît.
Oui.
Bienvenue au Fistfuck Playa Club.
Ah bah merci.
Aime la bise, aime le cul. Dieu, tu es super volant. Aime bien soucier les enfants. Fils de quoi, fils de quoi, fils de quoi. Fils fuck. Pas de but, touche à tout dire. Super para, aime séduire. Apprenez un geste qui sombre. Fils de, fils de, fils de quoi. Fils de quoi, fils de quoi, fils de quoi. Place du distancé, pour mettre la chambre bronzée, en faire des pieds au fond, plus la vie c'est plus c'est long. Fils de quoi, fils de quoi, fils de quoi. Fils fuck. Polonais super boulé, par le fils de Playa Club. Les idées par les foncées, par le fils de Playa Club. Fils fuck. Fist fuck, fist fuck, fist fuck, fist fuck, fist fuck. Policier moustachu, aime la guise, aime le cul. Ce curé super volant, aime bien sucer les enfants. Fist de quoi, fist de quoi, fist de quoi. Fist fuck.
C'était bon, hein?
Oh oui, mais c'était court.
Ça, c'était court. Mais c'était bon. C'était donc les Ludwig Fun 88 avec Fistfuck Playa Club, issu de Oulala 2, La Mission, leur deuxième album sorti en 87. Donc bah voilà, on passe de 86 à 87 et l'album était sorti chez Bandage Productions. Alors, donc, on vient de passer en 87. Les Ludwig, c'est leur deuxième album, mais dès le premier, bah, ça cartonne. On n'avait jamais encore entendu ça, un groupe avec de la boîte à rythme, du punk à fond à mort, du truc drôle, c'est vraiment très très rigolo. Et ils sont de Paname, les Ludwig, et ils ont existé donc de 83 à 2000, pendant 17 ans, quand même. Donc, avant de passer au morceau suivant, qui va contenir également de la boîte à rythme, il y a beaucoup de groupes à l'époque qui commencent à utiliser la boîte à rythme. Alors beaucoup, là dans cette émission on va s'en écouter trois, il y a déjà les Bérus, les Ludwig et les Garçons Bouchers qu'on va donc écouter un petit peu juste après. Et alors c'est pas, ça vient un petit peu à ma connaissance, les Varum Joe avaient commencé déjà à utiliser une boîte à rythme. Alors, de l'importance de la boîte à rythme dans le mouvement alterno. Pourquoi un instrument, on peut dire ça comme ça, un appareil comme la boîte à rythme est utilisé par certains groupes punk rock? Eh bien, c'est tout simple, parce que c'est quand même hautement pratique. Pas besoin d'un gros local de répétition avec des voisins qui supportent pas la musique. Quand on a une boîte à rythme à la place d'une batterie, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et ça permet de répéter beaucoup plus facilement, donc sans embêter les voisins sourds, ou pas d'ailleurs. Et donc voilà, la boîte à rythme, c'est aussi simple que ça. C'est juste pratique et ça va permettre de symptomatiser une certaine forme de musique à cette époque-là. Ça donne vraiment un type, un genre bien particulier de la boîte à rythme dans la musique punk rock. Donc voilà, on va s'écouter donc tout de suite, incessamment, sous peu, un morceau des Garçons Bouchers qui s'appelle Anthropophage. Ouah. Bon appétit. Voilà, anthropophage, entre la poire et le fromage, ça rime. C'était les Garçons Bouchers qui nous chantaient donc Anthropophage, issu de l'album Tome 2, sorti en 87, chez Boucherie Productions. Alors, les Garçons Bouchers, c'est leur deuxième album. Le premier est sorti en 86, il s'appelle comme le groupe, les Garçons Bouchers. Les Garçons Bouchers, ça existe donc de 85 jusqu'à 95, 10 ans d'existence. Ils sont de Paname et tout. Et on vient de s'écouter, donc, vous avez entendu la voix d'Eric Blitz, qui était le premier chanteur des Garçons Bouchers, avant d'être remplacé quelques années après par Pierrot Sapu, qui est donc le deuxième chanteur des Garçons Bouchers, qui était aussi le chanteur de Bébé Doc. On s'en passera ça, un de ces quatre, bientôt du Bébé Doc, promis. Donc, de l'importance des labels indépendants dans le mouvement alterno, l'importance est pas des moindres, bien au contraire. Alors, sans label alternatif, pas de mouvement alternatif, c'est aussi simple que ça. Parce que sans l'appui productionnel et logistique, très peu de groupes auraient pu percer à Paname comme ailleurs. Évidemment, on peut parler de Marsu, personnage clé du début du mouvement alterno, comme de sa totalité. Marsu, qui est donc le créateur de Bondage Productions, un des tout premiers labels, du moins le premier label alterno qui commence à développer tout un paquet de groupes et qui les aide à se lancer. Alors on peut citer évidemment les Beru, les Ludwig, les Wash, les Satellites, les Non-Tropo, les Cadavres, etc., etc. Et ce label donc commence déjà à mélanger par grâce à Marsu en fait à mélanger les genres et les réseaux. Alors les réseaux avec des fanzines, des graphistes, des dessinateurs, des graffitistes, des théâtreux, des circassiens, etc. On peut parler aussi évidemment de François G. Lazzaro, le fondateur des Bouchers, puis plus tard de Pigalle. Donc le François dit le gros François, qui monte de son côté Boucherie Productions, donc en parallèle avec Bondage, et Boucherie qui est le premier label indépendant créé par un groupe indépendant, ou du moins un des tout premiers, ce qui ne s'était encore jamais fait. Alors Boucherie, ça a permis de développer les Happy Drivers, les L, Paris Combo, et puis plein d'autres groupes aussi que je pourrais pas vous citer. Il n'y a pas le temps pour aujourd'hui, le programme est chargé. Donc, les Garçons Bouchers ont ou auraient inventé l'autoproduction en France, ce qui n'est pas une mince affaire, et même une sacrée gageure qui durera donc 10 ans. On va enchaîner, ça va super bien, après les Garçons Bouchers, un petit morceau des Carayos qui s'appelle « Se perd du pou du dou ». Et c'est Schultz qui s'y colle. Doudou. Quel crooner c'est Schultz. That for a week will miss me. Jump on Tokyo. I bet they got it. C'était les Carayos avec Super Dupu Doudou, issu de leur album Persiste et Signe, sorti en 87 chez Boucherie Productions. Et oui, Los Carayos, c'était aussi un groupe Boucherie Productions. Alors, les Carayos, eh ben, c'est leur premier album studio, sachant que le premier, c'est un live qui s'appelait Ils ont osé, sorti en 86. Et les Carayos, je vous en ai déjà aussi parlé dans pas mal d'émissions censurées précédentes, mais je peux vous rappeler que c'est plus qu'un groupe. Les Carayos, c'est même un super groupe, puisque dedans, il y a non seulement Schulz, qu'on vient d'entendre, et qui a écrit aussi la chanson Super Dupu Doudou, donc Schulz, qui est le chanteur de Parabellum, et guitariste aussi. On y retrouve donc le gros François G. Lazaro, qui à l'époque était encore dans les Garçons Boucher, avant Pigalle n'existait pas encore. On y retrouve Manu Chao, La Mano Negra, et puis Manu Chao et sa Radio Bemba. Par la suite, on y retrouve Tonio Chao, le frangin de Manu, qui jouait de la trompette dans La Mano Negra et qui jouait de la caisse claire dans les Carayos, et à la contrebasse, j'ai l'habitude de dire contrebassine, excusez-moi, à la contrebasse, donc Alain Vampasse, le premier contrebassiste des Vampasse. Donc tous ces mecs qui venaient de groupes différents ont formé un groupe de 86 à 90. Donc un super groupe, voilà. Donc tout ce beau monde, hein, que ce soit François, Manu, Schulz, Alain, Tonio et plein d'autres bons hommes, Zico, Soupa. Donc tout ce beau monde se retrouve évidemment dans les mêmes endroits, des squats principalement, comme le Palikao par exemple, endroit fondateur pour les Bérus, ou encore le squat Issu de Secours. Oui, dans les squats autogérés, puisque depuis Vichy, les concerts dans les bistrots, ça n'existe plus, aussi surprenant que ça puisse paraître. Du coup, il y a deux petits malins qui trouvent ça pas normal et qui créent à eux deux, tout seuls, la toute première association de programmation alternative pour pouvoir jouer dans les Troxons, pour qu'il puisse y avoir des concerts, enfin. Ces deux petits malins, c'est Rascal et Renan, et la sauce, c'est Paris Bar Rock. Du coup, tout ce beau monde se croise et se retrouve, naturellement, chez Jimmy, le premier troc à faire de la programmation alternative grâce à Paris Bar Rock. Et forcément, naturellement, à force de concerts, de rencontres, de bonnes beuveries et de bœufs spontanés, ça rigole, ça picole, ça joue ensemble, bref, ça se fédère. Ce qui donne un super groupe comme les Carayos et ouvre aussi plein de possibilités à tout un tas de nouveaux groupes qui s'engouffrent dans la brèche, comme les Satellites, par exemple, dont on va s'envoyer un petit extrait.
Dans la nuit du 21 mars, simultanément dans le monde entier, les langoustes surgissent et envahissent les plages et les villages et les maisons et les poissonneries.
Heureusement qu'on n'est pas en Vendée. Voilà, c'était donc Les Satellites avec Les Langoustes. C'est un extrait de leur premier album, Du Groove et des Souris, sorti en 87. On est toujours en 87, chez Bandage Productions. Donc Les Satellites, c'est leur premier album et c'est tout de suite un carton. Et le deuxième album sera aussi un énorme carton, Les Satellites, à tel point que ça va poser quelques problèmes par la suite. Mais ça, on verra ça dans une autre émission aussi. J'ai tellement de choses à vous dire et c'est bien avec cette émission, là, j'en savais déjà pas trop mal, mais pour le coup, j'en trouve encore plein et j'en apprends en même temps que vous. Si c'est pas beau, test ça quand même. Alors, Les Satellites, ils se sont formés en 87, ils se sont séparés en 93 de Paris. Donc ils font plutôt du disco funk soul punk, donc ça commence, voilà, les brèches s'ouvrent, donc on commence à mélanger plein de trucs. C'est un des tout premiers groupes à jouer avec des cuivres à fond, et on peut même dire que les Satellites seraient les précurseurs du festif entre guillemets. Donc Les Satellites, 6 ans d'existence seulement et toute une brèche à eux tout seuls. C'est à croire qu'à cette époque-là, chacun des nouveaux groupes qui apparaissent et qui commencent à tourner comme des brutes ouvre des portes béantes que personne n'avait jamais encore franchies. Chacun de ces groupes apporte une toute nouvelle couleur, complètement inédite dans le paysage musical franchouillard. Un nouveau groupe égale un nouveau genre, ça peut à peu près se résumer comme ça. Mais tout ça tombe pas du ciel comme par magie, parce que chacun de ces groupes crée dans les influences qui lui sont propres. Et plus ça s'ouvre, forcément, plus ça s'élargit. Des influences strictement punk rock du début du mouvement alterno, tout ce qui peut déjà se faire en dehors des frontières s'engouffre tout d'un coup en France. Alors pour illustrer tout ça, je vous propose un petit morceau des Happy Drivers, un des tout premiers groupes psychobilly alterno français. Et attention les oreilles, ça arrache. Ça commence un peu avec... Alors, on peut pas dire que ça arrache tout de suite, mais vous allez voir, c'est après que ça arrache, bien.
Indians in the plain.
On the road, wandering no more. Indians on the road, wandering.
Voilà. Vive les Apaches. Thématique d'ailleurs très très importante dans le mouvement alternatif. Les Apaches, les Indiens contre les cow-boys, tout ça. Alors donc, c'était les Happy Drivers, les joyeux conducteurs qui nous chantaient Indians, issus de leur tout premier maxi 45 tours autoproduit par Iguane Productions. Et Iguane, j'ai appris que c'était aussi le nom du contrebassiste, du premier contrebassiste des Happy Drivers. Puisque après, ça deviendra donc le Alain Happy Drivers, qui quittera les Vampas et les Carayos pour rejoindre donc les joyeux conducteurs. Donc voilà, Indians on the Road, c'est sorti en 87 et donc produit, autoproduit par Iguane Productions et distribué par New Rose, très très grand distributeur indépendant aussi New Rose. Donc voilà, les Happy Drivers, ils viennent d'Angers, ils se sont formés en 85, séparés en 96, donc 11 ans d'existence. Et pour vous faire une rapide généalogie des Happy Drivers, comme ça en vitesse, on peut dire qu'ils sont au départ certainement très influencés, en même temps d'ailleurs que les Batmobiles en Hollande, donc très, très fortement influencés par le psychobilly des Meteors en Angleterre. Eux-mêmes, les Meteors, très influencés par le rockabilly des Stray Cats, influencés en le punkifiant un petit peu. Stray Cats qui renouvellent aussi et dépoussièrent eux-mêmes le rock'n'roll des années 60, rock'n'roll des années 50, pardon, je veux dire, dont les acteurs de l'époque étaient influencés par etc, etc, etc. On peut remonter de toute façon toujours très très loin. C'est une autre histoire, tout ça juste pour vous démontrer que dans la musique alternative mondiale, tout vient de quelque part d'ancien pour mener à quelque chose de différent et de nouveau. Et par la suite, les Happy Drivers trouveront leur couleur bien à eux. Mais j'y reviendrai, dans une autre émission. Pour le moment, on va rester un petit peu à Angers, qui est aussi la ville des Tugs, groupe pop-punk. C'est pas facile à dire, je me suis entraîné pour le dire. Pop-punk, devenu lui aussi carrément mythique. Et je vous préviens, les Tugs, ça envoie bien le bois. Et en plus, on reste dans l'amérindianisme. Allez, envoie le bois, gros. Vas-y, autour du feu. Heureusement qu'on n'est pas chez les scouts. À mon avis, ça va bourrer. Ouh oui.
Yeah.
Waouh! C'était Dead Dreams par les Tugs, issus de alors attends que je retrouve mes petites notes de leur deuxième disque, mais de leur premier véritable album. Ça s'appelle Electric Troubles, sorti en 87 chez Vinyl Solution. Donc les Tugs, ben ils sont aussi d'Angers, ils se sont formés en 83, ça a fini en 99, 16 ans de carrière quand même, c'est pas rien. Et les Tugs, on y reviendra aussi dans une autre émission, mais par la suite ils seront produits, chose assez rarissime quand même dans le mouvement alterno français, ils seront produits par Sub Pop, qui était, ou qui est d'ailleurs toujours, je sais pas, un célèbre label alterno ricain. Donc, le punk français commence franchement à se diversifier. Pour vous le prouver, on va quitter Angers pour retourner à Montpellier, où commencent à sévir les Shérifs, dignes héritiers d'OTH. Pour le coup, on voit apparaître dans ces belles contrées méditerranéennes, comme qui dirait, un punk rock proprement sudiste, qui se nourrit d'influences aussi sudistes que diverses, comme les Ramones par exemple, avec leur surf punk californien, et les ZZ Top avec leur hard blues texan, la Californie et le Texas se trouvant au sud des États-Unis, et aussi comme ACDC, ACDC, pardon, je le dis toujours avec l'accent lorrain, oh ACDC gros, avec leur hard boogie australien, l'Australie étant à peu près au sud de tout. Comme quoi, je suis drôlement balèze en géographie, merci, vous êtes gentils. Pour vous remercier de votre gentillesse, les petits amis savoureront donc ce bon vieux morsif des Shérifs. Attention, top départ, 3, 2, 1, 0. Ça tombe bien, c'est le nom du morceau.
J'attends cette fille, mais je sais qu'elle ne viendra pas. C'est déjà 10 heures et elle n'est toujours pas là. Et alors je me dis, maintenant ça suffit, c'est la terre. Que je compte jusqu'à 3 2 1 0 0.
Les Shérifs 3-2-1-0, issus de leur album 3-2-1-0 avec un point d'exclamation, sorti en 87 chez Label Étoile, ce super jeu de mots, Label Étoile, distribué par New Rose. Alors les Shérifs, c'est leur deuxième album. Le premier s'appelle Pan, point de... je l'ai dit un peu fort, j'ai fait saturer le micro. Pan, point d'exclamation. Sorti donc en 86, c'est de l'autoproduction, les Shérifs de Montpellier. Ils se sont formés en 84 jusqu'en 98. Et en 14 ans d'existence, les Shérifs auront le temps de développer leur sauce à eux et eux aussi d'ouvrir leur brèche musicale comme productionnelle d'ailleurs à d'autres groupes du coin ou d'ailleurs. Mais on y reviendra une autre fois si vous le voulez bien. Pour l'instant, restons encore un peu dans le sud, mais changeons carrément de continent avec les influences sud-américaines. On arrive en 88, année charnière pour le mouvement alterno. C'est l'année où sort une vraie bombe qui va tout ravager et changer la donne. Je veux parler de Pachanka, le premier album de la Mano Negra qui va tout révolutionner en s'imprégnant non seulement de la musique populaire états-unienne, le rock, le blues, la country, anglaise, le punk, clashien plutôt, et française, la valse, la java, le tango, mais aussi de la musique populaire noire, le rap, le reggae, le ska, et d'Amérique du Sud, salsa, samba, afro-cubain, etc. Bref, avec la Mano, c'est une étape essentielle qui est franchie. Aucun groupe en France n'avait encore jamais mélangé autant d'influences aussi variées. Pour de la brèche, ça oui, c'est de la brèche. Tout y est, et en plus, c'est super efficace. À partir de la Mano, tout va partir dans tous les sens, et tous les mélanges deviennent possibles. Et ça va même devenir un des fondements de base de tout le mouvement alterno. Donc le mélange à tout va. Mais enfin, avec la Mano, c'est une toute autre étape aussi qui est franchie, celle de l'explosion à la face du sacro-saint grand public et des médias aussi qui vont avec. Après la Mano, plus rien sera jamais comme avant. Le grand public et les médias découvrent enfin le mouvement alterno. Ça, c'est quand même super important. Et pour vous le prouver, on va se quitter avec ce gigantesque tube qui fait toujours, à l'heure actuelle, le tour du monde. La mauvaise vie, mala vida, soleil, yeah!
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición me está dando. Mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón me está dando.
Waypout, eh bien voilà, c'est la fin d'émission censurée, chers auditeurs, chères auditeuses. Eh ben j'espère que celle-là vous l'avez trouvée intéressante et que de toute façon je vous réserve la suite parce qu'il y avait encore deux petites chansons au programme, mais c'est pas grave, ça me fait de la matière pour la prochaine. Donc voilà, c'était émission censurée spéciale Nos années folles de 85 à 88. Donc ben merci d'avoir écouté émission censurée. Dans tous les cas, c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. On se retrouve la semaine prochaine, fidèles au poste, pour vous comme pour moi, avec une petite surprise. Je vous la garde pour la semaine prochaine. Dans tous les cas, la semaine prochaine, on devrait bien s'amuser et on va être en très charmante et super compagnie. Donc, on se retrouve mercredi prochain de 18 à 19h, juste après Propergol, l'émission de l'excellent Sylvain Asselot. Émission censurée, rediffusée le dimanche de 22 à 23h. Vous pouvez écouter, télécharger, podcaster émission censurée comme plein d'autres émissions de Radio Caraïbes Nancy sur le fabuleux nouveau site, tout juste remis à jour. Il est beau, et vous pouvez le trouver sur www.rcn-radio.org. Vous pouvez aussi écouter et télécharger les 44 premières émissions censurées sur le http://émissionscensurée.blogspot.com. Je reprends ma respiration, restez à l'écoute de Radio Caraïbes Nancy les amis. Prochain direct, c'est c'est l'Entre-Gothard avec la Cris à 19h30. Et suivi à 23h d'À propos de Minos avec le Will. En attendant donc que nous nous retrouvions la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Et je vous dis, comme à la fin de toutes les émissions censurées, vive la résistance, vive le rock libre, vive le mouvement alternatif. Et merci et bonsoir. Oh.